Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes ici présents au Centre Sèvres, bonsoir à ceux qui nous écoutent par le relais de la radio ou de la vidéo dans un certain nombre de lieux en France et peut-être même à l'étranger. Bonsoir aux auditeurs de RCF qui eux nous reçoivent par la voix des ondes et bienvenue pour ce premier mardi d'éthique publique de la saison 2019-2020, organisée par le Centre Sèvres, en partenariat, bien sûr, avec la revue Études et son rédacteur en chef, François Levé, qui animera nos débats. Alors, ce premier mardi d'éthique publique est consacré à une question qui a beaucoup agité les esprits pendant l'été, un été un tout petit peu chaud, et qui est la question de l'environnement et du réchauffement climatique. Le titre que nous avons retenu, c'est « Climat, nature, environnement, l'urgence pour faire quoi ?» L'effondrement n'est pas imminent, je nous vois griller à petit feu. L'auteur de cette déclaration n'est pas un collapsologue farfelu, pour employer un néologisme à la mode, mais un scientifique, Jean Jouzel, climatologue et glaciologue reconnu, qui s'affirme en outre raisonnablement optimiste. Que serait-ce s'il ne l'était pas? Dans l'entretien qu'il a accordé au journal Le Monde, et d'où ce propos est tiré, Jean Jouzel ajoute que les moteurs thermiques auront sans doute disparu dans les 10 ans qui viennent à Paris, et que la mobilisation de la jeunesse est une raison d'espérer face aux menaces qui pèsent sur notre environnement. À condition, précise-t-il, que l'Europe ne rate pas ce virage. Peut-être est-ce là que réside le problème dont l'évocation nous réunit ce soir. Depuis plusieurs mois, les rapports sur la, et même plusieurs années, de nombreuses années, les rapports sur la disparition des espèces, les canicules, les incendies en Amazonie, un nuage toxique sur la Normandie, ont fait la une des médias et mobilisé l'attention. Un sentiment d'urgence s'est installé. Les manifestations du vendredi mobilisent les plus jeunes, à un niveau d'ailleurs moindre en France que dans les pays voisins. Et tout ça pourquoi? Quelle est la traduction, en termes de politique publique, du combat contre des menaces désormais bien identifiées et qui ne sont plus guère contestées dans les milieux scientifiques, alors que de nombreux gouvernants, il serait trop long ici d'en reprendre la liste, continuent de les dénoncer comme des supercheries? Comment les effets de la croissance de la population de la planète, difficiles, elles, à nier, sont-ils anticipés? Au-delà des dénonciations véhémentes, qu'en est-il aujourd'hui, sur un plan concret, de la lutte contre le réchauffement climatique? Il semble qu'en France, la taxe carbone ait rencontré quelques gilets jaunes sur son chemin. Et si ce n'était pas seulement nos modes de vie, de production et de consommation qui était à revoir, mais d'abord un mode de pensée. Pour nous éclairer sur ces sujets de préoccupation immédiate, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bernard Perret, qui est haut fonctionnaire, chercheur en sciences humaines. Il a publié en 2011 chez Flammarion « Vers une raison écologique » et puis plus récemment « Penser la foi chrétienne après René Girard ». Bernard Perret dispense au Centre Sèvres d'ailleurs un enseignement sur les questions d'environnement. Dalibor Friou est philosophe et romancier, conseiller de la revue Études, où il a récemment publié « Climat de l'enfant roi aux enfants juges ». Il a été l'auteur de plusieurs rapports pour la Fondation Terra Nova, notamment sur la consommation alternative et la transition alimentaire. Et il est cofondateur du prix du roman d'écologie, et je lui cède tout de suite la parole.
Voilà, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Alors, la dernière phrase pourra peut-être me servir d'introduction. Le prix du roman d'écologie, que j'ai cofondé avec Lucille Schmitt et qui en est sa deuxième édition, c'est un prix littéraire qui vise à sensibiliser à l'écologie. Alors, dit comme ça semble évident. l'écologie jusqu'ici est une matière très intellectuelle, très politique. Donc, soit ça relève de la science. Je sais pas comment je dois parler comme ça. Elle relève de la science, elle relève de la politique, mais il est quasiment interdit d'y mettre des émotions. Ça va être d'ailleurs l'axe de mon intervention ce soir, l'émotion dans la crise écologique et la place des enfants, la place des jeunes qui, tout à coup, font irruption dans le paysage avec des émotions. Et cela change beaucoup la donne. Cela est extrêmement inconfortable, mais va créer une grande nouveauté dans le débat écologique. Alors, ce prix du roman, l'écologie, nous l'avons fait justement pour dépasser l'aspect purement intellectuel de l'écologie, où on se contente d'avoir des rapports, des chiffres, des statistiques qui vont toujours dans le même sens, mais qui restent des informations peu digestes. Des informations qui s'accumulent, des informations qu'on a plutôt envie de contester, mais toujours intellectuellement, des informations de plus en plus angoissantes, mais on refoule l'angoisse en complétant son information. En lisant des romans, nous apprenons l'empathie, nous apprenons à nous identifier, nous apprenons à anticiper. Donc nous avons voulu créer ce prix du roman d'écologie il y a 2 ans avec Lucille Schmid pour justement montrer que l'écologie est aussi une affaire de sentiments, d'émotions, d'empathie, de liens sociaux et que le roman évidemment le récit, la fiction a toute sa place là-dedans. Alors pourquoi faire ce détour ? Parce que le personnage central dont je vais vous parler, que vous connaissez évidemment, Greta Thunberg, qui est aujourd'hui l'égérie, le symbole, mais il y en avait eu avant elle et il y en aura d'autres après elle, le symbole de l'arrivée de l'émotion dans l'écologie, dans le débat sur la crise environnementale. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ça crée un point de bascule, ça crée autant de réactions, autant de caricatures. Alors, cette fameuse Greta Thunberg, elle est à la fois plein de choses. C'est une créature hybride. Elle est à la fois homme et femme. Elle a un visage très étrange, un visage un peu asexué. Elle est à la fois une enfant et une adulte. Elle a 16 ans, mais elle parle bien mieux et bien plus efficacement que beaucoup d'orateurs, d'hommes politiques ou de chefs d'État. Elle est à la fois normale et anormale, puisqu'elle est censée être autiste. Elle est à la fois écolière et en même temps, elle ne met pas les pieds à l'école, elle est militante. Elle est à la fois suédoise, donc on imagine aussi la bonne conscience protestante, les pays nordiques, toujours à la pointe des progrès sociaux, mais en même temps militante du monde entier, traversant l'Atlantique, sur un voilier supposé neutre en carbone. Elle était à la fois incarnée et désincarnée. Alors, je m'arrête sur cette dernière opposition parce que ça me semble fondamental dans le débat qui se cristallise autour de sa figure, mais évidemment de tout ce que ça implique. Le problème de la crise écologique aujourd'hui, c'est que c'est un phénomène diffus. Les conséquences, les causes sont à peu près identifiées, mais les conséquences sont diffuses. Le climat, la pollution de l'eau, tout cela déborde les frontières étatiques, déborde les frontières des générations, ça a commencé avant moi, ça continuera après moi, déborde les frontières classiques des écosystèmes. Bref, c'est un problème généralisé avec des conséquences extrêmement, extrêmement diffuses. Ce qui fait que tout le monde peut se renvoyer la responsabilité dans le temps, dans l'espace. Que fait Greta Thunberg ou ses prédécesseurs ou ses successeurs, elle incarne. Elle incarne un phénomène diffus. Elle incarne déjà, elle n'existe pas par hasard. Pourquoi est-ce que les gens s'en prennent, certaines personnes s'en prennent à elle d'ailleurs plus qu'à Éric Zemmour, les mêmes qui fulminent sur Greta Thunberg ne disent rien 3 jours après le discours d'un fasciste diffusé sur une chaîne en libre accès. Je referme la parenthèse. Elle incarne un corps vivant face au surmoi que représentent les organisations internationales. Greta Thunberg n'existe que grâce aux organisations internationales, l'ONU, le GIEC, les sommets de chefs d'État, qui l'accueillent et lui donnent cette publicité. Autrement dit, si elle est manipulée, entre guillemets, elle est bien plus manipulée, entre guillemets, toujours par le GIEC ou l'ONU ou certains chefs d'État que par je ne sais quel publicitaire, des parents ou... Si on imagine que les organisations internationales sont le surmoi de l'humanité, qui disent le bien et le mal en termes de démographie, en termes de voie à suivre pour améliorer la situation des peuples, il manque d'incarnation. C'est un procès qu'on fait toujours à l'ONU. Elle arrive sur ces scènes, et je pense qu'elle est, si elle est manipulée, elle est manipulée peut-être au bon sens du terme, pour incarner ce surmoi transnational par un corps vivant, et qu'elle sert donc les scientifiques du GIEC en faisant passer de l'émotion, ou plutôt en révélant l'émotion qu'il y a dans ces données, dans cette science. Tout cela fait peur, tout cela angoisse, ou tout cela devrait faire peur, tout cela devrait angoisser. Or, elle parle de peur, d'angoisse, d'espoir, d'émotion primaire. Donc, elle incarne le surmoi des organisations internationales avec leur concours par son corps vivant qui parle d'émotion. La deuxième chose, c'est qu'elle est évidemment l'égérie de la jeunesse. Autrement dit, que les générations futures, elles ne sont plus les idiotes utiles des discours ou des politiques publiques. Les générations futures, elles sont là. Elles ne sont plus celles au nom de qui on fait à peu près tout et n'importe quoi et tout est le contraire de tout. Les générations futures sont déjà là. Ce sont des prématurés. Ce sont des élèves, des mineurs qui sont là au Canada. On a vu, il y a une des plus grandes manifestations du 21e siècle, je crois, c'est au Canada, des jeunes qui descendent dans la rue et dans le monde entier. Donc des jeunes qui devraient tout simplement faire partie d'une jeunesse pré-politique qui devrait tout simplement aller à l'école, se refaire des jeux vidéo, descendre dans la rue pour dénoncer l'incurie des adultes en titre. Donc, ces générations futures qui étaient des ectoplasmes, des personnes morales, des allégories, elles sont là. Et elles sont incarnées notamment par Greta Thunberg. Mais encore une fois, il y en avait avant. Dans l'article que j'ai signé dans l'étude, je cite une militante qui disait à peu près la même chose, peut-être de façon plus radicale, je crois que c'était au sommet de Rio, elle avait 12 ans, encore mieux, hein, 12 ans elle avait, c'était en 92, elle tenait exactement le même discours que Greta Thunberg, hein, c'était le sommet de Rio de 92, elle s'appelait Severn Kulis Suzuki, vous pouvez voir son intervention sur YouTube. Ils disent exactement la même chose. Donc il n'y avait pas la peine de s'effrayer de Greta, il y avait avant, et il y en aura d'autres, et beaucoup d'autres. Donc il faut se demander pourquoi finalement ces incarnations, en quoi elles peuvent nous aider, en quoi elles dérangent. Donc elle incarne les générations futures dont on se servait comme un procédé rhétorique pour faire à peu près tout et le contraire de tout dans la sphère publique. Troisième chose, beaucoup plus importante, mais qui reprend tout le reste, c'est qu'elle oppose un corps vivant à un corpus de savoir sur le climat, sur la biodiversité, sur les pollutions diverses et variées. Autrement dit, elle oppose donc des émotions à une raison qui était un peu enfermée dans des cercles, les fameux cercles de la raison, les experts, les politiques, les climatologues. Et d'une certaine façon, elle révèle quelque chose qui commence à être connu et dont on parlait beaucoup aux États-Unis, c'est les émotions liées au travail de climatologue. Dans les livres de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, et puis le suivant qui est sorti il y a quelques mois, il parle de climatologues dépressifs. Étudier tous les jours, de façon absolument scientifique, attestée, rigoureuse, la fin du monde, ou la fin de la biosphère telle que nous la connaissons, c'est extrêmement angoissant. Certains se retirent de ce métier-là, certains pleurent, certains tombent en dépression. Autrement dit, il y a des émotions qui sont liées à ce savoir. Or, jusque-là, on avait juste le savoir, un petit peu comme ça, tellement énorme qu'on ne sait pas quoi en faire. Et les émotions, on disait non, non, il faut surtout pas qu'il y ait des émotions, ne dramatisons pas, etc. Donc il y a cette angoisse climatique dont on a voulu aussi, avec le roman d'écologie, tirer les conséquences. Donc ce corps vivant opposé à un corpus de savoir un peu sec, un peu abstrait, c'est un enfant qui arrive sur la scène publique et qui autorise les adultes aussi à donner libre cours à leurs émotions. Vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je veux que je la cite, hein, mais encore une fois, c'est pas elle, hein, c'est tous ceux qui l'ont précédée et tous ceux qui vont lui succéder. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Voilà ce qu'elle dit. Hein, c'est une citation. Ce sont des émotions. Et les enfants, en arrivant sur la scène publique, autorisent les adultes à éprouver des émotions liées au climat, liées à la crise écologique. Ces émotions qui, jusque-là, c'était un devoir de ne pas avoir d'émotions. Au contraire, il fallait être crédible. Les écologistes s'interdisaient de paniquer, ou même les scientifiques s'interdisaient de paniquer, de laisser transparaître une seule goutte de sueur, de crainte. On voulait que ce soit seulement consensuel, raisonnable, parfait, posé, international, transpartisan. Voilà. Le problème, c'est que ce constat transnational, partisan et posé donne la chair de poule. Donc voilà tout à coup une jeune femme qui incarne finalement tout cela. Par un corps qui vibre, par un corps qui souffre, par un corps qu'elle met en scène, hein, en traversant, en refusant de prendre l'avion, en se déplaçant en train, en étant, en ayant ce corps étrange qui vient nous questionner. Et tout à fait normal qu'elle suscite des réactions aussi démesurées, aussi injustifiées d'ailleurs que celles qu'elle suscite, notamment chez des générations qui sont beaucoup plus habitués à un discours policé, un discours de la preuve, alors que nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas ressentir des émotions liées à ce que nous savons. C'est Jean-Pierre Dupuis qui disait « nous ne croyons pas ce que nous savons ». Aujourd'hui, bah, le fameux paradoxe, le paradoxe de la dissuasion, c'est-à-dire ce qu'on devrait croire est tellement énorme que nous préférons juste le savoir et ne pas le croire. Or, croire, il y a quelque chose d'affectif, hein, ça, c'est quelque chose qui guide l'action, qui va nous orienter. Commencer à croire à ce qu'on sait, lire véritablement, comme le fait Greta Thunberg, comme le feront ses successeurs, les rapports du GIEC, ce sont des récits apocalyptiques. Ce sont des récits apocalyptiques et de plus en plus apocalyptiques. Et pas seulement pour le climat, mais aussi pour la biodiversité, pour les pollutions, pour 680 millions de réfugiés climatiques. C'est les chiffres officiels. Donc, comment ne pas avoir peur, ne pas éprouver quelque chose? Et l'irruption des enfants, l'irruption de la jeunesse, c'est aussi l'autorisation pour les adultes d'éprouver ces émotions. Alors pourquoi? Quelle est la valeur de l'émotion? Avant Pearl Harbor, les Américains voulaient être neutres dans la Deuxième Guerre mondiale. La destruction de la flotte américaine dans le port de Pearl Harbor, je crois que c'était en 1941, a déclenché une émotion telle que tout à coup, ils ne se posaient pas de questions. Alors, c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, nous sommes conçus comme ça, les émotions nous déclenchent l'action. Aujourd'hui, c'est ma lecture évidemment. Aujourd'hui, l'enfant ou le jeune type Greta Thunberg nous autorise à ressentir et nous oblige à agir. Il fallait ce cocktail de raison et d'émotion pour arriver peut-être un jour à l'action. Donc, tout ce qu'elle déclenche, toutes les réactions épidermiques qu'elle peut déclencher, C'est d'un côté donner ce corps, cette puissance, cette incarnation à nos peurs, à nos craintes jusque-là refoulées. Mais en même temps, n'oublions pas, elle n'est pas là par hasard. Ce sont des instances internationales qui lui donnent sa légitimité. Elle est le bras ému du GIEC. On pourrait dire ça comme ça. Il est évident que beaucoup de gens, tous les experts de l'ONU et les experts du GIEC se réjouissent d'avoir une telle porte-parole et lui laissent accès à ça. Donc, elle est avant tout, finalement, le représentant d'une nouvelle conscience de ces élites transnationales qui ont abouti à ce constat de catastrophe pour l'humanité. C'est-à-dire maintenant, il faut passer aux émotions. Il se trouve qu'on a une superbe jeune fille qui incarne cela et on va lui donner un libre accès finalement à une visibilité internationale. Donc elle est peut-être manipulée, mais manipulée par la raison et non pas par je ne sais quelle officine ou particulier. Alors je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 3 minutes, voilà. Alors ça, c'était un peu sur ce phénomène et la place de l'émotion. Sinon, l'article que j'ai signé dans l'étude cet été, c'est sur le rapport entre les générations, finalement. Ce rapport entre les générations, c'est un rapport aujourd'hui qui est inversé, perverti. Au sens où ces enfants, avec leurs émotions et avec l'autorisation finalement d'être émus, c'est ce qu'on attend aussi d'un enfant, c'est normal, font notre procès. Alors c'est très gênant d'avoir un juge qui est rempli d'émotions, mais ces émotions, elles sont légitimes. Et en plus, elles sont fondées. Greta Thunberg, elle a lu infiniment mieux et plus souvent les rapports du GIEC que moi. Donc, on n'a pas de leçon de raison à lui donner. Mais en tout cas, elle a des leçons d'émotion, peut-être, à nous donner. Donc, j'ai appelé cette situation une pédagogie inversée. Une pédagogie inversée du fait que nous avons légué à nos enfants un monde non renouvelable, un monde intransmissible. Nous avons manqué à ce devoir fondamental selon Hannah Arendt, qui est de défendre le monde, de le représenter le monde et le transmettre aux nouveaux venus, aux nouveau-nés, et de pérenniser cette chaîne de transmission. De façon plus ou moins volontaire, nous avons presque bloqué cette chaîne de transmission de non pas de la vie, nous arrivons encore à procréer, même si ça commence à devenir difficile, les problèmes de fertilité. Donc nous arrivons à encore transmettre la vie, mais nous ne transmettons plus de monde habitable, de moins en moins. Donc ici, il est évident que les générations futures qui sont devenues les générations présentes, puisqu'elles se réfugient dans le présent aujourd'hui, un présent qui devient étouffant, puisque le futur a disparu, futur désirable et souhaitable a disparu. Ces générations qui se réfugient dans le présent font notre procès et on se retrouve avec effectivement le carnaval des fous. Hein, vous savez, le carnaval, c'est ce moment où le monde est à l'envers, où les rois sont des manants, les manants sont des rois. Et un carnaval qui va durer assez longtemps, où tout à coup, ce sont ces générations à futur, au nom desquelles on agissait, ou plutôt on n'agissait pas, qui nous juge. Et c'est une situation assez inédite dans l'histoire de l'humanité, mais qui ne fait que commencer avec toutes les Greta Thunberg qui vont arriver, que ce soit au niveau international, au niveau national ou dans nos familles. Je m'arrête là.
Merci. Dalibor, pour cette introduction qui peut-être nous met en mouvement déjà, qui peut susciter, qui suscitera forcément des réactions, hein, qu'elle est faite pour, heureusement. Et je laisse la parole à un expert rationnel, Bernard Perret.
C'est bon, là ? C'est oui. Eh bien, en guise de transition, je dirais que je suis tout à fait sur la même longueur d'onde concernant Greta Thunberg. Il se trouve que je fais des conférences sur l'écologie depuis déjà un certain nombre d'années, et il m'est arrivé de conclure mes interventions en disant « Nous avons besoin d'une incarnation, d'un Gandhi, d'un abbé Pierre, et peut-être même d'une Jeanne d'Arc du changement climatique. » Et il se trouve que je suis allé voir le film de Dumont sur Jeanne d'Arc, et bon, je veux pas trop en rajouter là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque part des espèces de correspondances qui apparaissent, qui sont assez troublantes. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas reprendre cette question de l'émotion, je vais plutôt dire pourquoi la colère de Greta Thunberg est parfaitement justifiée, pourquoi je la partage totalement, sur le fond, c'est-à-dire que son message est parfaitement juste. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin, dire pourquoi, à mon avis, on ne fait pas plus, et qu'est-ce que ça dit sur ce qui nous attend comme réveil douloureux. Alors, Jean-Luc Poutier l'a rappelé dans son introduction, il se passe quand même pas mal de choses. On a eu la canicule, une avalanche de rapports catastrophistes, on a eu la crise des incendies en Amazonie, et par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, me frappe énormément, parce que j'écoute régulièrement le service public de l'information, que ce soit à la radio ou à la télévision, et c'est absolument stupéfiant de voir la croissance extrêmement rapide de la place consacrée aux questions écologiques et en particulier au changement climatique. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas un sujet à la télévision ou à la radio de problématiques liées au changement climatique. Et puis, bien sûr, on voit les symptômes concrets, la chaleur, les sécheresses. Quand on va en montagne, on voit le Mont Blanc qui n'a plus de blanc que le nom. Et il y a plein de. C'est, on voit même que donc les glaciers régressent, etc. Et dans le même temps, on voit que les pouvoirs publics sont, à l'échelle mondiale, sont dramatiquement. Sont dramatiquement déficients. Il faut quand même le dire. Alors, pour que mon propos n'apparaisse pas comme exagéré, je vais simplement citer un rapport officiel qui est le rapport du Haut Conseil du Climat qui a été nommé par le gouvernement et que je considère comme plutôt modéré, c'est-à-dire parmi tous les diagnostics qui sont faits, c'est quand même un diagnostic qui est plutôt soft, hein, mais qui néanmoins est extrêmement clair. Alors, petite parenthèse, le sujet de ce soir, c'est l'environnement en général, mais il se trouve qu'on parle surtout du changement climatique. Mais à vrai dire, il y a des raisons, de très bonnes raisons, pour se concentrer sur le changement climatique. Et je voudrais quand même les rappeler parce que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment présent à l'esprit, c'est que le changement climatique est étroitement lié aux autres atteintes à l'environnement, comme la perte de biodiversité, comme l'acidification des océans, comme la pollution de l'air, etc. On voit que les causes du changement climatique sont en grande partie les mêmes que celles des autres atteintes à l'environnement. Deuxièmement, le problème, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer, le changement climatique est, de tous les problèmes environnementaux, à la fois le plus global et le plus urgent, celui qui risque le plus rapidement de mettre en question notre mode de vie et l'ensemble de notre civilisation technique. Et puis enfin, il y a un troisième point sur lequel j'insisterai volontiers, qui est qu'avec le changement climatique, on a la chance d'avoir affaire à un problème quantifiable. C'est-à-dire qu'on a, on a à la fois des mesures du réchauffement et on a des mesures des émissions de gaz à effet de serre par pays. On mesure à la fois les émissions, on mesure l'augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc on a une vision en quelque sorte extrêmement globale, extrêmement et relativement précise de tout ce qui est en train de se passer. Et ça rend donc le sujet, à mon avis, particulièrement adapté pour susciter une prise de conscience et une mobilisation. Alors, quelques faits bruts. D'abord, je rappelle que dans l'accord de Paris, dont on s'est beaucoup félicité parce que c'était un grand succès diplomatique pour la France, la conclusion, c'est que qu'on retrouve écrite dans les actes, dans le texte de conclusion du sommet, c'est que les pays signataires s'engagent. Sont d'accord pour dire qu'il serait absolument nécessaire de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés parce que sinon, au-delà de 2 degrés, on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Et deuxièmement, que les engagements qu'ils sont prêts à prendre impliquent une hausse de 3 à 4 degrés d'ici 2100. Donc on a déjà quelque chose qui est en soi relativement traumatisant, c'est-à-dire que les plus hauts responsables de la planète se sont réunis, ils ont constaté on a un problème majeur devant nous qui met en cause les modes de vie, l'économie, toute la survie de l'humanité à la limite, et pour l'instant on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut. Voilà, on veut bien faire les choses, mais on pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire, et peut-être qu'on ira plus loin dans les années futures. Bon, mais c'est pas tout. Regardons maintenant ce que fait un pays comme la France, qui se présente volontiers comme exemplaire. La France s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, surenchérissant dans un objectif qui était déjà présent dans la loi, qui était le fameux facteur 4, c'est-à-dire la division d'un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que les émissions françaises sur le territoire, qui sont celles sur lesquelles portent nos engagements, ont diminué de 19% de 1990 à 2018, ce qui correspond à une diminution de moins de 1% par an. Et tout ça, en partie, grâce à l'énergie nucléaire qui a permis de décarboner une partie de notre bilan énergétique. Et pour en rajouter dans le pessimisme, du diagnostic, ces chiffres ne concernent que les émissions sur le territoire, c'est-à-dire ce qui est émis par nos usines, par nos voitures, par nos logements et qui trouve son origine dans des activités économiques sur le territoire, mais ça ne prend pas en compte le contenu en carbone de nos importations, c'est-à-dire de tout ce qu'on a, des vêtements, des chaussures, des voitures qu'on importe notamment de Chine ou d'Asie. Et si on prend en compte cette empreinte carbone de notre mode de vie, on passe de 6,6 tonnes par personne à 11 tonnes d'équivalent CO2, et là, on est dans un chiffre qui ne diminue presque pas, qui ne diminue, je pourrais vous donner des chiffres précis, mais c'est vraiment une diminution très faible. Et donc, quand Greta Thunberg attaque le gouvernement français et que Emmanuel Macron se scandalise des attaques de Greta Thunberg, il faut quand même dire que ça sert à rien de se présenter comme le champion du climat si on n'est pas capable d'exhiber des chiffres qui montrent des résultats. Et alors, évidemment, si je suis d'autant plus sévère par rapport à ça, c'est que il y a autre chose que sur lequel j'avais moi-même travaillé quand j'étais fini ma carrière à l'inspection générale du ministère de l'écologie et qui est repris dans le rapport du Haut Conseil, c'est que les actions, que les modes d'action que s'est donné le gouvernement pour atteindre ces objectifs sont complètement inadaptés. On a en effet une stratégie nationale bas carbone qui liste un certain nombre d'actions et d'orientations à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais comme le note le rapport, et ce que j'avais moi-même noté dans les rapports que j'ai faits sur le sujet, la SNBC est isolée et peu opérationnelle. Elle n'est pas du tout contraignante, elle n'a aucune valeur juridique contraignante, c'est-à-dire que les ministères, les collectivités, etc., continuent à faire leurs projets, à élaborer leurs politiques, sans être obligés de tenir compte de la SNBC. Ce qui fait que, par exemple, en région Île-de-France, on peut avoir ce projet Europa City, d'artificialisation des meilleures terres agricoles de la région parisienne, et un projet qui est parfaitement climaticide, alors que si la SNBC était un tant soit peu sérieuse et contraignante, on n'aurait même pas l'idée d'étudier un projet de cette façon-là. Alors en réalité, ce déni, il est ancien, hein, parce que en réalité, on a 30 ans de bientôt 30 ans de déni derrière nous, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'était parfaitement lisible dans les travaux des climatologues dès les années 90, dès le sommet de Rio. On a parlé tout à l'heure du sommet de Rio, mais on pourrait aussi parler du sommet de Kyoto en 1997, parce que qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Kyoto en 1997? C'est que le problème avait été déjà jugé suffisamment sérieux par les hommes politiques, par les dirigeants planétaires de l'époque, pour qu'ils commencent à prendre un certain nombre d'engagements pour réduire les émissions du secteur industriel. Donc le sujet était déjà sur la table, et pas seulement dans les sphères des scientifiques, mais déjà dans la sphère de la décision. Or, quand on regarde les courbes d'émissions et tout ce qui s'est passé, il y a absolument aucune inflexion dans les trajectoires. Alors j'arrête là parce que mais pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ben, je crois que on sous-estime complètement la contradiction, les contradictions qui existent entre la protection de la planète et notre modèle de développement. On reste accroché à l'idée que c'est la technique qui va tout résoudre et qu'on va pouvoir verdir la croissance à coup d'investissement, à coup de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, etc. On continue à faire une confiance aveugle dans la technoscience pour résoudre miraculeusement le problème. Or, moi, je ne suis pas du tout je crois profondément en la science, et je ne fais pas du tout une croix sur la technique. Je crois que c'est très important qu'il y ait des recherches dans un certain nombre de domaines, comme les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, et même les techniques d'enfouissement du carbone, tout ça. Je pense que, évidemment, nous ne pourrons pas nous passer de la science, mais ce que les gouvernements n'arrivent pas à dire clairement, c'est que il faut admettre que notre mode de développement est condamné quelque part. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir inventer autre chose. Et si vous en voulez une preuve, eh bien je pense que la meilleure preuve de ça, c'est que nos dirigeants ne font même pas l'effort de communiquer clairement sur les causes d'émissions, les sources d'émissions et les moyens que nous aurions chacun de réduire nos propres émissions. Si on cherche bien sur Internet, on trouve un document de l'ADEME qui récapitule l'empreinte carbone de moyenne des Français, 12 tonnes, et qui décline ça en une trentaine de postes, alimentation, produits laitiers, viande rouge, déplacement, habillement, etc. Et quand on voit ça, eh ben, on se demande, on voit des choses. On voit par exemple que la viande rouge, ça représente 5,38% des émissions, alors que la volaille, seulement 0,9%. Donc on se dit, bah tiens, ça vaut peut-être le coup de passer de manger moins de rouge et plus de viande rouge et plus de volaille. On voit que l'habillement, qui paraît quelque chose de tout à fait anodin, ça représente 6,30% de notre empreinte carbone. On voit que la voiture, ça représente 13%, on voit que l'avion représente 4%, etc., etc. Donc ça, chaque poste, évidemment, suscite des réflexions, et quand on voit ça, on se dit, bah, finalement, j'aimerais bien avoir ce bilan pour moi, et puis voir comment je peux travailler sur chaque poste. Et pourquoi est-ce que on n'a aucune communication là-dessus? Ben, je crois qu'à une des raisons, c'est peut-être un procès d'intention, mais une des raisons, c'est que il est clair que quand on voit ça, ça donne pas envie de consommer. On n'a pas envie d'aller dans les supermarchés ou d'acheter une voiture qui va consommer un SUV, comme on en parlait tout à l'heure, les publicités sur les fameux SUV qui consomment encore plus de carburant qu'une petite voiture. On aurait peut-être moins envie de prendre l'avion, etc., etc. Et ben tout simplement, ça se traduirait par potentiellement un arrêt de la croissance, et on serait obligé de se demander comment est-ce qu'on fait pour continuer à se développer, pour donner du travail à tout le monde dans une société post-croissance où on adopte un mode de développement complètement différent, fondé sur la dématérialisation de la réponse aux besoins, sur la mutualisation, sur le remplacement des biens par l'échange de services, par le troc, le fait de faire durer les biens le plus longtemps possible, enfin toutes choses dont on parle, dont les gens c'est des sujets dont on parle. Il y a plein d'initiatives qui se font, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a aucune initiative prise par les pouvoirs publics pour faire connaître ces initiatives et pour tenir la main aux gens pour les aider à transformer leur comportement. Parce que je crois que, comme j'avais essayé de le dire dans le livre que j'ai écrit en 2011, nous sommes pris dans une espèce de prison, et cette prison, c'est ce que j'appelle la rationalité économique. C'est-à-dire, c'est un mode de raisonnement dont nous sommes incapables de sortir et qui nous rend incapables d'imaginer une société qui ne se développe pas à travers l'échange marchand, à travers l'accumulation des biens, à travers la prospérité matérielle, etc. Nous sommes absolument incapables de faire cet effort d'imagination pour inventer autre chose. Et je crois que le sujet, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, je crois qu'il y a plein de choses concrètes à faire, mais il faut que tout ça s'inscrive dans la recherche à la fois d'un nouvel imaginaire technique et d'un nouvel imaginaire social. Nouvel imaginaire technique, c'est-à-dire que au lieu de considérer la technique comme le moyen de produire des objets et qui nous aident à répondre à nos besoins, c'est-à-dire au lieu de voir la réponse à nos besoins sociaux et à nos besoins personnels à travers l'acquisition et la possession d'une voiture, d'un ordinateur, d'une maison de campagne, etc., arriver à imaginer la réponse à ses besoins et l'utilisation de la technique pour produire des réponses sociales, pour produire des réponses des objets qui nous rendent capables de nous organiser de manière différente pour répondre à nos besoins. Je prendrai qu'un seul exemple parce que tout ça c'est un peu abstrait. Plutôt que de produire des voitures qui flattent le désir de d'acquisition et d'accaparement personnel, moi dans ma bulle, dans mon 4x4, etc., concevoir des véhicules qui se prêtent à la mutualisation et à l'utilisation urbaine et qui se prêtent à la complémentarité avec le vélo, avec la marche à pied, avec le train, etc. Bref, des objets qui s'inscrivent dans des systèmes sociaux qui facilitent la coopération sociale et la réponse intelligente et sobre à nos besoins élémentaires. Et puis, un nouvel imaginaire social, c'est-à-dire imaginer le progrès et l'avenir, et y compris le progrès social, autrement qu'à travers la redistribution monétaire, autrement qu'à travers la croissance. Et je pense que ce que nous devrions... D'abord, il faut évidemment que nous-mêmes prenions un certain nombre d'initiatives, mais malheureusement, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est que s'il n'y a pas de transformation collective, les initiatives individuelles auront du mal à transformer suffisamment rapidement notre système. Donc ce que nous devrions au minimum exiger des hommes politiques, c'est d'abord qu'ils nous disent toute la vérité et qu'ils nous informent en temps réel sur tout ce qui est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la manière dont nous pouvons y contribuer, et qu'ils nous aident à transformer notre imaginaire social, à concevoir autrement notre avenir et à inventer des systèmes techniques qui, au lieu de flatter notre désir d'accaparement et de domination, nous aillent dans le sens d'un imaginaire de la solidarité et de la coopération et aussi d'une certaine sobriété.
Merci Bernard Perret pour cette présentation chiffrée et vraiment intéressante de nos comportements et de ce qu'ils induisent sur le réchauffement climatique par notre responsabilité personnelle. Alors il s'agissait là d'un discours qui évoque des réponses rationnelles aux problèmes massifs qui se posent aujourd'hui. Dalibor Friot, vous avez plutôt expliqué que c'était l'émotion qui allait être le levier des réactions aux effets du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement. Comment les deux facteurs peuvent-ils interagir? Est-ce qu'on peut mêler l'émotion et le rationnel face à ces questions, ou ce sera soit l'un soit l'autre?
Alors, j'ai essayé d'expliquer que justement le luxe d'objectivité que le GIEC, qui n'est plus trop contesté maintenant, s'est donné au fil des années, a abouti à un constat qui fait peur. Donc on s'est donné une objectivité qui est terrorisante. Si vous lisez les rapports du GIEC stylo en main, page après page, chiffre après chiffre, tous ces experts qui se sont réunis, un consensus scientifique qu'on a rarement aussi méticuleusement bâti. Ça s'est jamais vu, cette construction d'un consensus scientifique. La seule réaction raisonnable, c'est de paniquer. Ou quelqu'un qui serait totalement froid et qui enregistrerait simplement ces données, ce serait une intelligence artificielle. Mais quelqu'un qui a des enfants, qui a des parents, qui tient à la vie, lit ça, comprend ça, qui a une éducation, qui comprend ce qu'il lit, il panique. Donc déjà, il y a un refoulement de la panique qui... Bernard en a un peu parlé, un refoulement par les gouvernants qui font que, certes, c'est vrai au niveau international, mais chez nous, on peut attendre. Hein. Au niveau international, c'est vrai, etc. Il y a plein de choses d'ailleurs qui se discutent au niveau international, comme si c'était un surmoi, bon, on peut discuter, par contre qui sont tabous au niveau national. J'ai écrit un peu dans l'étude sur le problème démographique, par exemple. Il y a plein de pays où la démographie est un tabou. Au niveau international, c'est un problème qui, notamment en Afrique ou en Asie, et le Kofi Annan, le précédent secrétaire des Nations Unies, parlait de façon extrêmement claire, extrêmement directe du problème démographique. sans prendre de gants, en disant c'est une vraie malédiction pour l'Afrique que la démographie, c'est pas une chance que d'avoir une démographie dynamique ou galopante dans beaucoup de pays. Donc il y a un problème démographique. Par contre, dans chaque pays, c'est plus difficile à gérer parce que donc il y a des vérités internationales qui sont diluées ou écartées au niveau national. Alors, pour revenir sur le rationnel, l'irrationnel, la raison et l'émotion, on est dans un capitalisme d'émotion. C'est-à-dire que tout le niveau de consommation que l'on a aujourd'hui, il est induit par des centaines de ou des dizaines à minima de milliards investis dans une industrie fondamentale qui est l'industrie de la publicité. L'industrie de la publicité, c'est pas une industrie parmi d'autres. C'est une des industries les plus puissantes au niveau planétaire puisque tout simplement Google, Facebook, ce sont des filiales, ce sont des entreprises publicitaires. Ils ne vivent que par la publicité pour la publicité. Autrement dit, toute l'innovation de Facebook, de Google, c'est une régie publicitaire. Google est fondamentalement une régie publicitaire. Donc, qui organise nos besoins, qui les cible, qui va nous titiller exactement là où il faut, quand il faut, chez nous, jusqu'à 3 heures du matin, tant que nous sommes devant notre écran, etc. Donc, la publicité, ça n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est une pieuvre qui est de plus en plus près de chacun de nous et qui nous ordonne finalement de continuer à consommer. Donc on dit souvent oui, les solutions, une des solutions toutes bêtes, ce serait déjà de réguler mais de façon absolument comme une industrie nuisible ou comme des réparations nuisibles la surface accordée dans les villes, dans les médias à la publicité. Alors il y a des collectifs, on commence à s'en rendre compte. À Paris, on a essayé de mais peut-être plus pour des raisons esthétiques, parce que bon, c'est pas très très beau les publicités que pour des raisons éthiques. Mais il faudrait vraiment museler l'industrie publicitaire. Tant que on est dans des injonctions contradictoires, la planète est en feu, mais il me faut le dernier 4x4. Parce que tous les jours en bas de chez moi, il y a une image de quelqu'un très heureux avec le dernier SUV de Peugeot. N'allez pas demander aux gens d'être raisonnables. C'est pas possible. Eux, ils ont des émotions fondamentales, des problèmes de subsistance, de représentation de soi, de comparaison avec autrui, d'auto présentation de soi, qui fait qu'il leur faut le dernier téléphone, la dernière voiture, ce vêtement, ce voyage, ce mode de vie. Donc, tant que nous, on n'a pas tari les émotions euphorisante de la consommation, on pourra difficilement laisser accès aux émotions justes qui vont accompagner la sobriété, la convivialité dont vous parliez, la façon de mutualiser les biens et les services. Tant qu'on n'aura pas tué ces émotions, ces passions tristes, eh bien, ce sera extrêmement difficile de lutter contre pour un monde plus sobre, tout simplement.
Alors Bernard Perret, il est question ici de régulation. Qui dit régulation dit souvent contrainte. Dans des sociétés démocratiques, entre guillemets, avancées, quelle est très individualisée, quel niveau de contrainte sur ces sujets sommes-nous capables d'accepter ou de supporter?
Alors, on oppose souvent la liberté de la société de marché à ce qui serait la dictature écologique. Il y a ce spectre de la dictature écologique qui est. Mais en réalité, le problème ne se pose pas du tout de cette façon-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu de contraintes, et Dalibor a parlé d'un aspect majeur de cette contrainte, qui est la contrainte émotionnelle, si on veut, enfin, en tout cas le cadre émotionnel qui est créé par la publicité. Donc, en réalité, les différentes actions que doivent mener les pouvoirs publics, que ça soit en termes de contraintes réglementaires, d'incitations fiscales ou de cadres d'information, tout ça, ça, ça trouve sa cohérence dans l'idée de cadre de rationalité, c'est-à-dire il faut que nous soyons placés dans un cadre qui nous fasse considérer comme absolument évident et naturel de tenir compte de nos relations avec la nature et aussi de nos relations avec autrui. Il faut construire un cadre dans lequel on sera pas, ça sera pas une dictature, mais tout simplement, nous serons naturellement conduits à adopter un certain nombre de comportements. Je vais donner un exemple pour montrer quand même aussi que l'information elle-même et les chiffres eux-mêmes peuvent être des outils assez puissants de transformation des comportements. Je vais donner deux exemples qui me concernent. Quand j'ai changé de voiture il y a quelques années et que j'ai eu une voiture qui donnait des informations sur la consommation instantanée de carburant, j'ai constaté que mon mode de conduite a changé presque instantanément. Quand j'ai constaté que quand on monte une côte à 120 à l'heure, on consomme deux fois plus que si on la monte à 90 à l'heure, naturellement j'ai changé de comportement. Et c'est quelque chose qui se fait presque intuitivement, c'est-à-dire on est intuitivement alerté par les informations. Si ces informations sont directement en relation avec des actions, ce qu'il faut, c'est avoir des actions qui nous informent en temps réel sur l'impact de nos comportements. Un deuxième exemple, cet été, j'ai changé changé ma chaudière au fioul contre une pompe à chaleur, et l'un des principaux bénéfices de cette transformation, c'est qu'avec cette pompe à chaleur, j'ai des informations très précises sur ma consommation journalière liée à l'eau chaude et au chauffage. Donc chaque jour, je sais combien j'ai dépensé de kilowatts et d'euros pour le chauffage et pour l'eau chaude. Eh bien, presque naturellement, ça crée une incitation à dire, tiens, si je raccourcis mon temps de douche, si je divise mon temps de douche par deux, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ça produira un effet mesurable sur la consommation d'eau chaude? Et on se trouve en quelque sorte placé dans un cadre qui a naturellement incite à faire des économies. Parce que ce qui est quand même assez, ce qui devrait nous alerter quand même, nous scandaliser dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes surinformés sur l'aspect économique de tous nos comportements. On sait combien d'argent on a dans les poches, on sait ce qu'on gagne à la fin du mois, on sait le rendement des placements qu'on va faire quand on va à la banque. Je veux dire, on est sursaturé d'informations qui ont trait à l'aspect monétaire des choses. Mais on n'a aucune information sur l'impact de nos interactions avec notre environnement. Et moi, je fais le pari que l'un des leviers les plus puissants, mais bien sûr, ça n'est absolument pas contradictoire avec tout ce qui a été dit sur les émotions, évidemment, tout a toujours un aspect émotionnel. Mais en tout cas, si nous étions tout simplement beaucoup mieux informés et de manière avec des interactions directes avec certaines décisions que nous prenons au jour le jour, si nous mesurions un peu mieux les conséquences très directes de ces décisions sur nos émissions de gaz à effet de serre, je suis persuadé que ça serait un outil de transformation extrêmement puissant. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'un des aspects intéressants de la question du changement climatique, c'était que justement il y avait un aspect mesurable qui était tout à fait incontestable et qui nous mettait en situation, en quelque sorte, de pouvoir mesurer l'impact de nos comportements.
Merci. Il est temps de remercier nos deux intervenants en les applaudissant. Et de passer à la suite, donc au débat, un micro circuler parmi vous. Donc, comme d'habitude, nous prenons deux ou trois questions à la fois. Alors, Des mains, voilà. Ben, première question au premier rang.
Merci. Je suis moi-même, je travaille sur ces sujets-là.
Mettez bien le micro proche de vous.
Je travaille sur ces sujets au Parlement, je connais un peu. Simplement, le titre, c'est l'urgence pour quoi faire. Vous avez évoqué ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, la vitesse, enfin le fait qu'il y a une espèce de course contre les échéances. Et au début de la présentation, vous avez évacué d'un mot l'approche en termes de collapsologie, donc d'effondrement civilisationnel, en disant collapsologue farfelu. Et ça m'intéresserait quand même de savoir ce que vous avez à dire sur le risque qui paraît quand même de plus en plus sérieux que vraiment ce ne soit pas si farfelu et que ça arrive avant qu'on ait eu le temps de changer nos comportements, de rediriger notre manière de vivre, etc. Parce que c'est quand même ça qui donne ce sentiment d'urgence plus aigu maintenant qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les données étaient les mêmes, simplement, à tort, on pensait qu'on avait plus de temps. Et là, c'est de moins en moins crédible.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le fond, oui. Franck. Il y a deux mains qui se lèvent à côté, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, pour aller prendre.
Ce que j'entends dans votre discours à tous les deux, c'est une mise en cause donc des pouvoirs publics, enfin une dénonciation de leur incurie, et derrière une sorte de déresponsabilisation en fait des citoyens. Et c'est aussi un peu ce qu'on entend dans le discours de Greta Thunberg, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on mesure forcément nos responsabilités individuelles, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, ils sont aussi élus par une partie de la population qui ne fait pas partie de cette société civile qui va manifester, marcher pour le climat, mais qui achète des SUV et qui n'entend pas changer forcément, qui parfois est même sceptique. Hein. Alors on se moque de Trump et de ses tweets, climato-sceptique, mais son opinion est aussi partagée par une partie non négligeable de la population mondiale, qui, si elle ne change pas ses comportements, c'est ce que Bernard Perret disait à un moment, quelques changements individuels ne transformeront pas le collectif. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça?
Merci. Je crois qu'il y avait à côté une autre main qui s'est élevée, non? Voilà. Puis on en restera là pour le premier objet de question.
Bonsoir. Du coup, c'est effectivement un complément par rapport à la question précédente. Vous évoquez donc l'urgence, sans pour autant donner de chiffres un peu, effectivement, de raison, j'ai envie de dire. Et vous évoquez effectivement les émotions qui permettent d'agir. Effectivement, agir au service de quoi? Deux chiffres pour nommer l'urgence. 2037, plus de cobalt. Si on continue business as usual, plus de cobalt. Or, on fait, c'est la manière de faire des batteries d'automobiles. Bon. 2025, une étude de l'ADEME montre qu'en France, la moitié de nos réserves de pétrole ne sont pas sécurisées seulement pour la France, en 2025. Le pic pétrolier est pas loin. Bon, juste ces petites données d'urgence qui, effectivement, en termes d'émotion, me font dire « Oui, il est raisonnable de paniquer. » Et ensuite, ma question, ça serait comment décider collectivement en prenant en compte l'urgence de la situation, comment on peut décider sur des sujets aussi systémiques d'ici 2025, sur le mix énergétique, sur des choix à la fois de décisions individuelles mais décisions surtout collectives, sur la politique du bâtiment, de l'alimentation, également sur le mode de décision, si on prend en compte que dans tous les pays fondateurs européens, on constate une montée des populismes assez impressionnante. Comment prendre en compte dans ce contexte, comment décider collectivement non pas des solutions, mais des chemins on veut aller, quoi. Pardon si ma question est un peu...
Non, je pense qu'elle est tout à fait ad rem. Alors, qui... Libor.
Alors, sur les collapsologues, moi, je les prends au sérieux, et il faudrait les prendre suffisamment au sérieux pour leur donner tort. Hein. C'est toujours le fameux effet de... il faut croire à la catastrophe pour qu'elle ne survienne pas. Donc ça, c'est le grand paradoxe de Jean-Pierre Dupuy dans son catastrophisme éclairé. Moi, je les prends au sérieux. Quand ils ne sont que des Cassandres, ça peut être une émotion négative, mais en plus toxique. Les émotions négatives ne sont pas toutes toxiques, ça peut aussi pousser à réagir, mais quand elles ne sont que négatives, ça peut être toxique. J'apprécie dans le deuxième tome de sur comment tout peut s'effondrer, ça s'appelle Une autre fin du monde est possible, de Pablo Servigne et d'autres auteurs. Il commence à montrer comment l'effondrement peut être synonyme d'une vie meilleure. C'est-à-dire d'une vie justement où les besoins sont plus simples, le lien social est plus vrai. Il y a une esthétique aussi de la suffisance, de la sobriété, quelque chose de qui rend la vie humaine plus digne et plus belle, l'individu plus valorisé. J'en veux pour preuve le fameux rapport Biorégion 2050 qui a été commandé par le Forum Vie Mobile, soutenu par la SNCF, à l'Institut Momentum, qui est dirigé notamment par Yves Cochet et Agnès Sinaï, où ils font le portrait de la région parisienne, de l'Île-de-France, après l'effondrement. Donc autour de 2050, selon eux. Mais on rêverait tous d'en être là. Tout à coup, il n'y a plus de voitures, plus de pollution, les gens ont des potagers, on vit sur des petites communautés, les choses, des circuits courts. Ça fait véritablement rêver. Alors, il y a peut-être une transition, un point de passage un peu difficile. Il va falloir, on peut plus prendre l'avion, on peut plus aller vite, on peut plus communiquer jour et nuit, etc. Mais globalement, le tableau qu'ils font de la région parisienne en 2050, post-effondrement, beaucoup d'observateurs l'ont noté, c'est plutôt un tableau convivial, un tableau apaisé, c'est pas tous contre tous, monde post-apocalyptique des fictions ou des séries télévisées. Donc les collapsologues, oui, mais je les préfère quand ils sont conviviaux, qui donnent envie d'anticiper l'effondrement, de le rendre le moins brutal possible, le plus juste possible, et de surtout de penser à la société d'après, qui ne doit pas être une société encore plus injuste, où les élites seront réfugiées dans des abris atomiques, mais une société de partage, une société conviviale et sobre. Sur la responsabilité des citoyens et des pouvoirs publics, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on surresponsabilise, et que c'est à dessein, on surresponsabilise les individus, les petits gestes, faites ceci, faites cela. Alors, des gens bien plus informés que moi, bien plus compétents ont calculé que quand bien même on réduirait, on prendrait pas l'avion, quand bien même on prendrait très peu la voiture, l'empreinte écologique de chacun bougerait assez peu, parce que il y a vraiment il y a le bâtiment, faut se chauffer, faut se déplacer tous les jours, et que les grands renoncements, ce qui nous semblerait être des grands renoncements, ne pas prendre l'avion ou manger un peu moins de viande rouge, ne serait pas grand-chose à côté de notre vie quotidienne qui est carbonée, qui a une empreinte carbone, ne serait-ce que par notre mode de vie, etc. Donc les responsabilités des citoyens, elle est assez de l'individu seul, elle est surestimée et à dessein. Les pouvoirs publics s'en sortent justement en disant toujours mais vous devriez faire ça, toujours l'idée des petits gestes, alors que finalement il devrait y avoir des choses interdites par les pouvoirs publics. La livraison d'Amazon en une journée, le fameux Prime, ça devrait être interdit. C'est un facteur majeur de stress, de pollution, d'impatience comportementale, de surconsommation, de consommation compulsive. Ce mode de livraison, de même qu'on a interdit la livraison gratuite pour les livres. Alors Amazon s'en est sorti en facturant un centime la livraison. Mais tout ça devrait être interdit, de même qu'on devrait interdire tous les montages fiscaux qu'on déplore. Mais c'est un scandaleux. Mais si c'est scandaleux, pourquoi est-ce légal ? On a de plus en plus de choses légales, de choses scandaleuses qui sont légales. Donc là, il y a vraiment la responsabilité des États, tant au niveau fiscal qu'environnemental. Et là, les politiques ont démissionné depuis des décennies, que ce soit en termes de législation fiscale, sociale ou donc là, il faut effectivement faire pression sur les politiques pour qu'il y ait à nouveau des normes, à nouveau des exigences. Et c'est parce que ça s'appliquera à tout le monde. C'est le gros problème des gilets jaunes. Tout à coup, on a pris des banlieusards, des provinciaux qui avaient leur vieille voiture et on s'est dit, bon, c'est vous qui allez porter le... On n'a pas parlé des gens qui prennent l'avion, on n'a pas parlé du fuel des cargos, on n'a pas parlé de plein de choses. Il faut que tout le monde souffre. Si les temps sont les temps, on va devoir pleurer, suer et souffrir. Il faut que tout le monde souffre. Et que le grand récit, c'est le gros problème de ce gouvernement, ce récit-là, ce soit un récit de cohésion et d'effort collectif, national, et pas qu'on prenne une catégorie pour dire vous êtes les coupables et on va vous taxer votre carburant. Dernière chose rapidement, sur comment décider collectivement, etc. Oui, mais c'est un peu ce que je disais. Pour moi, il y a vraiment l'importance des émotions, c'est-à-dire si on construit pas des émotions positives, collectif qui nous donne envie d'agir, une panique raisonnée, une panique raisonnable qui nous pousse quand même à agir, effectivement, il va falloir que la catastrophe arrive. Or, et c'est là quelque chose qui est absolument scandaleux de la part des régimes aujourd'hui qu'on appelle libéraux autoritaires, un peu comme le régime actuel en France à mes yeux, c'est que en ne faisant rien, il prépare un fauteuil très confortable pour tous les fascismes verts qui se préparent. Autrement dit, pour le dire clairement, des gens comme Marion Maréchal, ex-Le Pen, le jour où leur tour viendra, ils diront « Regardez, c'est vraiment le chaos climatique, vous ne respirez plus, moi je vais agir ». Parce que j'ai la volonté, parce qu'il n'y aura plus de liberté publique, etc. Mais au moins, je vais agir environnementalement, je vais nettoyer votre air, etc. Eh bien, on paiera très très cher, les démocraties paieront très très cher leur inaction en matière environnementale. Paieront très cher politiquement leur inaction en matière écologique. Et on se prépare à des fascismes ou des post-fascismes écologiques terrifiants. Parce qu'ils auront la légitimité, personne ne pourra dire bah oui, finalement, il ne faudrait rien faire, et ils auront le monopole du courage. Et ce courage, il n'est pas là, il n'est pas représenté par les sociaux libéraux d'aujourd'hui. Et ce sera bien dommage s'il devient le privilège et l'apanage des jeunes fascistes bien habillés et féminisés qui se préparent à briguer des mandats en France et en Europe.
Bernard, quelques mots?
Je suis à peu près d'accord avec les réponses qui viennent d'être données, sauf bon, sur le fascisme vert, j'y crois qu'à moitié, parce que je pense que la question écologique, elle implique des actions à tous les niveaux, de manière très décentralisée, elle implique des formes d'organisation qui viennent à la fois du haut et du bas, et il y a une espèce de complexité dans l'action à mener qui me paraît contradictoire avec les formes d'action qu'on associe généralement à l'idée de fascisme. Et c'est un peu le même débat que j'ai avec les... Bon, alors, la question de l'effondrement, moi je prends effectivement au sérieux ce que disent les tenants de l'effondrement, même si parfois on peut discuter, je pense par exemple le livre d'Yves Cochet qui prévoit l'effondrement à cause du peak oil en 2025, je crois pas trop à ce scénario-là précisément, mais enfin, en tout cas, l'idée qu'on va vers de grands chocs, voilà, on va vers de grands chocs avec des conséquences sociales, probablement humanitaires, probablement hélas démographiques dans une certaine mesure, je pense qu'on échappe difficilement à ce genre de scénario, même si je crois plus à un chaos et une transformation progressive qui ne prendra pas forcément les formes apocalyptiques qui sont indiquées. Mais c'est peut-être pas là que j'ai mon plus grand débat avec les partisans de l'effondrement. Je pense que dans les scénarios de l'effondrement, ce qui est commun, c'est qu'ils imaginent une société qui se réorganise en îlot de convivialité sur une base purement locale, avec un collapse, c'est même pour ça qu'on parle d'effondrement, un effondrement des grands systèmes et des grandes institutions. Et c'est là-dessus que moi j'ai plus de mal à les suivre, parce que je pense, peut-être parce que je suis un fonctionnaire d'État, un catholique, donc qui a toujours été adepte des grandes institutions, je crois fondamentalement aux institutions et à la nécessité de s'accrocher dur comme fer de veiller à la résilience des grands systèmes. Je crois que on aura plus que jamais besoin de grands réseaux qui continue à fonctionner, que ça soit sur le plan juridique, sur le plan du droit, ou que ça soit même sur le plan de la distribution d'un certain nombre d'aménités comme l'eau, l'électricité, etc. Je pense que l'enjeu de la résilience des grands systèmes est un enjeu majeur, et que je ne suis pas du tout prêt à suivre les partisans de l'effondrement qui imaginent un avenir sans ces grands systèmes. Je crois que ce que nous avons à imaginer est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. C'est plutôt une espèce de d'hybridation entre des systèmes de résilience locale et de grandes institutions qui continueraient à fonctionner. En tout cas, moi, c'est sur ce genre de scénario que je serais plutôt.
Merci. Alors, continuons des séries de questions. On va repartir vers ma droite.
Moi, je trouve que tous nous qui sommes ici, on peut faire des petits gestes. Par exemple, mettre des ampoules à basse consommation chez soi, utiliser de l'eau froide et pas de l'eau chaude. On peut faire un tas de choses déjà nous-mêmes, et on devrait nous le dire. Et on ne nous le dit pas.
Merci. Alors, dans le fond,
bonsoir. Moi, je suis un petit peu frustrée parce que le thème, c'est l'urgence pour faire quoi ? J'ai pas vraiment l'impression d'avoir entendu des réponses ce soir. Peut-être que j'ai mal entendu, mais moi j'aimerais bien entendre des esquisses de solutions. À quoi vous croyez personnellement ? Là, on a entendu qu'est-ce que c'est que le changement climatique, l'importance de la raison, des émotions, très bien. Mais du coup, pour faire quoi ? Voilà, je voudrais avoir un peu plus d'éclairage sur des solutions concrètes qui passent pas forcément par la technique uniquement, et qui donne aussi des raisons d'espérer, justement, au-delà d'un effondrement qui est plus que probable.
Merci. Bon, voilà, en l'occurrence, deux questions qui se recoupent un peu, parce que entre les petits gestes et puis les grandes actions. Peut-être commencer par Bernard.
Alors, effectivement, on n'a pas organisé nos exposés sous forme d'une liste de choses à faire, mais moi, je peux tout à fait commencer à le faire, hein. Alors si on se place au niveau individuel, faire des économies d'énergie en prenant des douches plutôt que des bains, c'est manger moins de viande rouge, c'est ne pas s'acheter de grosses voitures, mais pratiquer le covoiturage, prendre les transports. Non, c'est pas ça que vous pensiez. Non, c'est quoi alors, à quel type de choses? Parce que c'est si on parle des actions à mener, c'est ça. Alors, nouveau récit. Bon, ben, le nouveau récit, c'est, je peux développer, parce que le nouveau récit, on peut en parler. Le nouveau récit, c'est aller vers une société de la coopération et de la mutualisation, où on s'organise pour mutualiser les biens, pour échanger, pour faire durer et par exemple faire du troc de vêtements plutôt que de les jeter. C'est une société où on organise des loisirs de telle sorte que on n'ait pas envie de partir en vacances à l'autre bout du monde en avion. Donc, par exemple, on développe la culture, les loisirs, les spectacles vivants, toute chose qui favorise la convivialité. Et puis on fait vivre la démocratie locale pour exiger de son maire des choix favorable au vélo, à la marche à pied, au développement des espaces verts, etc. Sur le plan de l'habitation, ça c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est que la meilleure moyen de faire des économies d'énergie dans le bâtiment, c'est pas de faire des investissements coûteux pour isoler, encore qu'il faut le faire aussi. Ce qui est le plus efficace, c'est de réduire le nombre de mètres carrés par personne. C'est-à-dire que si on habite quelque part, si on a une grande maison, eh ben on se demande comment loger davantage de gens dans les mètres carrés dont on dispose. Bon, ça c'est très exigeant, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement concret. Bon, je pourrais continuer. Il y a plein de choses qui renvoient à des problématiques de mode de vie, de loisirs, de déplacement, de mode de consommation qu'il faut faire. Et encore une fois, moi je n'oppose, je pense que l'erreur, ça serait d'opposer les petits gestes quotidiens et la pression exercée sur les pouvoirs publics pour qu'ils changent l'organisation de la société et qu'ils prennent ce qu'on pourrait appeler des macro-décisions, parce que évidemment tout ça doit aller en synergie.
Dalibor, quel grand récit ?
Alors, grand récit, moi je suis assez optimiste parce que les solutions, on les connaît tous. N'importe quel militant, moi je suis militant et écologiste depuis un certain temps, il suffit de lire 3-4 bons livres, hein. On les connaît les solutions, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il suffit d'aller sur Internet, en une demi-heure, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire? Mais je vais en parler, hein. Je sais pas une façon de me dérober, mais vous savez ce qu'il faut faire. C'est pourquoi est-ce que je parle des émotions? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que on est en démocratie, parce qu'il y a des inerties, il y a des habitudes, il y a des niveaux de consommation, il y a une structure du pouvoir, et parce qu'il nous manque effectivement l'émotion positive qui va nous faire basculer. Mais on sait exactement ce qu'il faut faire. Tout cela est dans les rapports internationaux, nationaux, c'est même ahurissant à quel point on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut réduire de façon drastique la consommation de viande rouge dans le monde. On le sait. Ça, c'est fondamental. Que ce soit pour le bien-être animal, le bien-être de la planète, la santé des gens. C'est facile. Vous commencez à arrêter les subventions. La viande rouge, elle est en faillite. En France, mais aussi en Europe. Vous arrêtez les subventions aux éleveurs, ils s'effondrent. Déjà qu'ils s'effondrent avec les subventions. Mais vous arrêtez les subventions, vous arrêtez de les soutenir, ça s'effondre, tout seul. Alors c'est très triste, ça fait beaucoup de casse, le capitalisme a l'habitude de ça. Il suffit de couper le robinet, c'est la première chose. Vous arrêtez de subventionner les énergies fossiles. Jour au lendemain, vous avez je sais pas combien de dizaines de milliards qui subventionnent le carburant des camions, des avions, du fioul, etc. Vous coupez le robinet, ça c'est, il suffit à l'Assemblée nationale, pof, ça y est, vous changez d'échelle. Vous réduisez le temps de travail. Réduisez le temps de travail, ça veut dire que les gens ils sont beaucoup moins, mais vraiment. Un des procès qu'on a fait aux 35 heures, c'est qu'en fait, elles auraient dû passer directement à 32 heures pour un changement de civilisation et pas juste pour un petit truc marginal où finalement on consomme plus et on regarde plus la télévision. Donc vous diminuez radicalement le temps de travail, la semaine de 4 jours. Ça, bon, c'est facile, c'est tenté, c'est fait dans certains pays, dans certaines administrations, dans certaines entreprises même, la semaine de 4 jours. Vous changez l'imaginaire des gens. Si vous ne travaillez que 4 jours, la consommation est remise à sa place. Vous n'avez pas besoin de compenser vos misères professionnelles ou votre stress en allant consommer ou en vous téléportant à l'autre bout du monde. Autre chose, le bio. Arrêtons de subventionner l'agriculture intensive. Donnons tout ce qu'on donne à l'agriculture intensive, donnons-le au bio. Ça, c'est une décision En une session du Parlement européen, on pourrait faire basculer totalement, c'est que s'il commence à se faire très très légèrement, on pourrait basculer toutes ces aides vers le bio. Et alors là, vous changez le paysage européen et le paysage mondial, puisque l'Europe est quand même un acteur majeur et un consommateur majeur. On commence aussi à lutter contre le gaspillage, à prendre conscience, mais il faudrait que ça change d'échelle. Donc pourquoi parler des émotions? Parce que on n'est pas bloqué par le savoir, on sait ce qu'il faut faire. Il y a plein de gens bien plus intelligents, bien plus compétents, bien plus expérimentés que nous tous ici, qui savent exactement ce qu'il faut faire. Des militants, des experts, des climatologues, des ingénieurs, des gens qui innovent, des associations. Il ne manque que la volonté politique, mais l'émotion aussi, parce que nous sommes dans des démocraties d'opinion, donc il faut qu'il y ait des émotions dominantes qui nous emmènent vers une société meilleure. Là, on reste dans des émotions qui nous... toujours ce que disait Bernard, l'accaparement, l'avidité, la compétition, qui sont des émotions qui nous enferment. Mais le récit, il est là. Je prends vraiment, là, c'est vraiment tout frais, le récit sur Biorégion 2050 de la région parisienne. Vous lisez ça, ça fait 14 pages. C'est un conte de fées. C'est merveilleux. Ça fait envie. On a envie d'avoir des enfants quand on lit ça. On a envie de rester à Paris. La moitié des Franciliens ont envie de ficher le camp. Ah, selon les sondages actuellement, vous prenez une société post-effondrement, ou si possible en limitant la casse le plus possible, vous avez une société conviviale, recentrée. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Bernard sur la nécessité d'institutions au sens d'outils, de méga-outils politiques ou de méga-outils techniques. Je pense qu'il peut y avoir un municipalisme résilient, aussi bien au niveau politique qu'au niveau écologique ou social. Plus confiance à l'échelon de la région. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans ce scénario. Ils disent que les futurs pays, les futures nations seront des régions, tout simplement parce que c'est là où se fait la résilience. Et il faudrait d'ailleurs que les régions soient quasiment autosuffisantes. Pas seulement, pas fonctionner en autarcie, mais globalement autosuffisante en énergie, en matières premières, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'aller d'une région à l'autre pour que ça reste. Donc la région deviendra le nouvel État, le nouveau périmètre de l'appartenance au quotidien, et ça fait envie. Le grand récit, il est là, il faut juste que les gens effectivement soient informés, que les gens aient envie de le faire, et ça peut aller très très vite, ça peut aller, c'est là où je suis quand même optimiste, ça peut aller... Le point de bascule, le fameux tipping point des Anglais, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on pense. Il suffit qu'il y ait une catastrophe symbolique du type, si possible localisée, Tchernobyl, Fukushima, ont tué le nucléaire. Le nucléaire est une industrie qui zombie actuellement, soutenue totalement en apesanteur et condamnée. Il suffit d'une ou deux catastrophes pour faire basculer le problème. Après, pour finir là-dessus, c'est tout ce qui est justement les industries zombies. Quand on vous promet le véhicule autonome électrique, ça n'est que une réincarnation du moteur thermique. Si on veut autant de voitures, même plus, puisque ce sera l'effet rebond, plus de véhicules électriques individuels, quand on n'aura pas changé d'imaginaire. Il ne faut pas qu'on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, il faut qu'on passe d'un véhicule individuel à un véhicule partagé, mutualisé, collectif, qui a beaucoup moins d'emprise sur l'espace public. Et tant qu'on n'aura pas changé cet imaginaire, on sera toujours dans des effets, c'est ce que disait Bernard, c'est très bien pour isoler mieux, avoir moins des ampoules LED, un chauffage à bois ou tout ce que vous voulez. Mais il se trouve que le nombre de mètres carrés par habitant en France ne cesse d'augmenter. Donc on prend de plus en plus de place. Alors on est de plus en plus économe, mais on prend de plus en plus de place. On est dans l'effet rebond type. Donc ça sert à rien si on ne tue pas l'imaginaire qui va avec la voiture. La voiture, la première pollution de la voiture, c'est les matières premières et c'est l'espace que ça prend sur le reste. C'est pas tant la pollution atmosphérique que la place dans l'imaginaire et dans l'espace public et les matières premières.
Je donne la parole brièvement.
Oui, non, juste un point. parce que même après l'effondrement, il y aura toujours des interdépendances au niveau mondial, ne serait-ce que parce que la question climatique restera posée et que n'importe quel passager clandestin, comme on dit, pourrait continuer à émettre du gaz carbonique. Donc on sera toujours dans un monde interdépendant. Donc quand je parle de grandes structures, je dis simplement qu'on ne peut pas imaginer un monde qui soit constitué de cellules complètement autonomes. De toute façon, la question d'un niveau d'organisation supérieur restera posée d'une manière ou d'une autre.
Voilà, eh bien écoutez, c'est sur ces visions un tout petit peu différentes que se termine ce débat. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir traité le sujet au fond et d'avoir exploré aussi les pistes concrètes qui pourraient être mises en œuvre. Moi, ce que vous dites me rappelle un peu, beaucoup plus ancien, ce que nous lisions dans les années 1970 dans Charlie Hebdo, GB, l'an 01. C'est ce que vous venez de nous décrire. Alors peut-être que nous avons pris 50 ans de retard, mais est-ce que c'était possible? Bon, eh bien, on espère qu'un avenir pas trop pénible nous le dira, et nous vous donnons rendez-vous. En vous remerciant encore, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain mardi d'éthique publique. Ce sera le mardi 5 novembre. Et le thème que pour l'instant nous avons retenu serait le tournant de la politique migratoire actuelle du gouvernement, puisqu'il devrait y avoir un certain nombre de débats, y compris au Parlement, sur cette question dans les jours et les semaines qui viennent. Et nous essaierons peut-être aussi d'avoir une vision comparée française et italienne, puisque cette question a joué en Italie un rôle important dans les soubresauts politiques que ce pays a connus, hélas, pas toujours de façon très sympathique, depuis quelques mois, depuis les élections de 2018. Voilà, merci encore Bernard et Dalibor pour vos interventions.
Et comme d'habitude, des urnes attendent à la sortie votre bol.